Éthique par le père Philippe, à Rimont, le 29 avril 91.
Question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Des questions, nous recherchons ensemble. Je répète, parce que je crois que c'est important. C'est très important pour aujourd'hui. Alors, je comprends très bien, vous pouvez très bien ne pas avoir de questions. Maintenant, tout de suite. Mais réfléchissez-y. Et si vous avez des questions, vous les notez. Oui.
C'est une question annexe, mais à propos du contrat Genfilet.
Oui.
C'est un livre qui est apologétique.
Oui.
Est-ce que l'apologétique implique un regard de sagesse, comme il y a dans le contrat Genfilet?
C'est évident. Puisqu'il est ordonné à la foi. Et on utilise la philosophie en tant que sagesse.
On connaît des apologétiques qui n'impliquent pas de la
sagesse. Ah, mais c'est autre chose. L'apologétique, c'est un travail théologique. Tandis qu'il y a des apologétiques aujourd'hui qui sont des rhétoriques, c'est tout. La plupart des apologétiques du début du siècle, c'est de la rhétorique pure et simple. C'est pas de l'apologétique au grand sens. C'est pas l'apologétique telle que les pères de l'Église la conçoivent. Saint-Justin, c'est de l'apologétique. Mais de la grande apologétique. L'apologétique, c'est de montrer, au grand sens du mot, c'est de montrer que ce qui est affirmé par la foi ne va pas contre la raison. Et donc de montrer où, comment l'intelligence humaine, si elle va jusqu'au bout, aboutit à nous disposer à la foi. Préambule infidèle. Oui. Et ça, c'est de la philo. La philosophie est au service de la foi. Voyez ce que je vous avais dit. Déjà, essayez de comprendre le cogitare et l'adhésion de foi et les relations du cogitare et l'adhésion de foi. Moi, je crois que c'est ça qui nous aide beaucoup à comprendre. Quand saint Thomas parle de l'acte de foi, il nous parle toujours du cogitare et l'adhésion de foi. Le cogitare, c'est l'intelligence humaine. Alors, le cogitare est extrinsèque à l'adhésion de foi, mais ordonné à l'adhésion de foi. Où il est intrinsèque à l'adhésion de foi et il explicite l'adhésion de foi. Dans le premier cas, on a l'apologétique. Dans le second cas, on a la théologie.
Mais l'apologétique s'adresse donc premièrement aux croyants.
Ah mais oui. Pour qu'ils soient des apologètes. Cet homme forme des croyants. Contra gentiles, c'est pas pour les gentiles qui dit contra gentiles. Vous n'allez pas aborder les gentilesses en disant contra gentilesse. C'est pour les croyants le contra gentilesse. C'est bien évident. Et vous êtes témoin en face d'eux pour justifier votre foi. Quand on vous attaque, vous ne les attaquez pas. Vous répondez aux attaques. C'est pour fortifier la foi des croyants. C'est pour faire que des croyants soient intelligents. Faites des croyants intelligents. Allez, lisez le contrat gentilesse. Alors, il faudrait faire, à notre époque, un contrat gentilesse. Ce serait très intéressant. Un vrai contrat gentilesse à notre époque. Eh bien, ce serait recevoir toutes les bêtises qui peuvent être dites, toutes les choses très intéressantes qui peuvent être dites, pour montrer exactement quelle est leur valeur et qu'au fond, la philosophie elle-même peut montrer, c'est pas juste. Et ce que j'avais essayé de faire avec notre cher Jacques Vautier, il avait rassemblé 15 gros bouquins sur lesquels on voyait toutes les conclusions soi-disant scientifiques qui allaient contre la foi. Toutes les conclusions soi-disant scientifiques. Alors, on montre là que l'intelligence humaine est capable de montrer que ce n'est pas vraiment scientifique. C'est pour ça qu'il voulait intituler ce livre, après la discussion, j'avais dit que pour Aristote, les sophistes se drapaient du manteau du philosophe. Et avec lui, j'avais essayé de montrer qu'au fond des quantités de sophistes de notre époque, de notre monde d'aujourd'hui, c'est l'utilisation mauvaise des mathématiques, soi-disant. évidemment tous des mathématiciens. Ce que je crois qui serait très intéressant, ce serait un dialogue avec des mathématiciens, de grands mathos, pour montrer que constamment les conclusions, parce que le philosophe, en face de ses erreurs scientifiques, ou de ses sophismes scientifiques, est un peu désarmé comme philosophe, parce qu'il n'a pas le judicium tout à fait propre. Voyez, parce que toutes ses erreurs ne proviennent pas de la philosophie, premièrement. Elles proviennent d'une fausse application des mathématiques. Voyez, et cette fausse application des mathématiques ou de la technique, il faut que ce soit le mathématicien lui-même qui dise « Ah, là, il y a une erreur. » Vous faites équivoque. Voyez, il se drape du manteau du mathématicien. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Un dialogue avec le philosophe seul ne peut pas répondre entièrement. Et constamment, je vous dis, à ce point de vue-là, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'était un mathématicien qui, lui, pouvait montrer. Et je le poussais pour qu'il montre lui-même. En disant, non, c'est pas vrai. Il y a un sophisme. Oui. Du temps d'Aristote, les sophistes, c'était de faux philosophes. Et donc le philosophe pouvait répondre. Aujourd'hui, notre monde, c'est plus des faux philosophes. C'est des faux sciences scientifiques. Lisse vers un point de vue qui n'est plus scientifique et on fait croire que c'est scientifique. Combien de fois j'ai vu ces conclusions, vous voyez, hâtives qui ne sont pas scientifiques et que je l'avais vu, je vous l'avais dit une fois, c'était en récréation, je me souviens, ce soir, quelqu'un qui disait avec force refuser l'évolution, le passage de l'animal à l'homme, et bien c'est une erreur telle qu'on est en pécherie, on commet une faute grave. Je l'ai entendu, c'était évidemment adressé à Dominem. Alors à ce moment-là, il s'agit de montrer que scientifiquement, vous ne pouvez rien dire. Ce sont des hypothèses, on laisse le choix libre. On ne peut pas dire plus. Les plus grands le disent. C'est les petits qui continuent. Mais comme toujours. Et c'est ces applications-là qui se répandent. Ce n'est pas les grands livres scientifiques qui se répandent. Non. C'est en dehors du commerce. Mais alors là, le mathématicien, on l'a joué. Constant. Et que le philosophe ne peut pas répondre directement parce que toute la science moderne est dépendante des mathématiques. Dans sa formulation. Vous voyez. Alors c'est là où le point de vue du contrat gentilesse, c'est net. Il y a un séminaire au point de vue du contrat gentilesse à Saint-Jean-d'Arc. C'est le père Marie-Dominique qui fait ça. Et constamment, on a discuté ensemble. Bien préciser le statut du contrat gentilesse. C'est très important. Autrement, vous êtes dans une impasse. Vous ne comprenez pas du tout ce que dit Saint Thomas. Tandis que si vous comprenez ça, ah oui, l'ordre, vous voyez, vient de la foi. Alors, y a-t-il autre question? Oui. Oui, oui, j'allais y revenir. Je vais y revenir. Oui, dites.
Est-ce que vous aussi, la distinction sur la responsabilité?
Non, c'est différent. C'est la responsabilité à l'égard d'un autre, l'autorité. La responsabilité, au sens, il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité par rapport à vous-même. Vous êtes maître de votre propre vie et responsable de ce que vous allez faire de votre vie. Vous êtes responsable. Dans l'amitié, on devient responsable de l'ami. Ça, c'est sûr. Il m'a fait confiance. Je suis responsable de lui. Et donc, c'est ordinairement dans l'amitié que la responsabilité se manifeste le mieux. Parce que la responsabilité à l'égard d'un autre est plus manifeste qu'à l'égard de soi-même. Oui. À l'égard de nous-mêmes, il faut déjà comprendre la responsabilité à l'égard de l'autre. Donc, génétique, selon l'ordre génétique, je crois que c'est dans l'ordre de l'amour d'amitié que la responsabilité apparaît en premier lieu. et s'étend ensuite. Et par le fait même, cette responsabilité me fait comprendre mon autorité. Et je crois que la responsabilité est la propriété de l'autorité. Oui. C'est le signe, si vous voulez, qui m'alerte et qui me donne le plus. Parce que je n'ai pas conscience de mon autorité. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui croient avoir une grande autorité qui n'ont pas du tout. Alors, si on n'est pas, on n'a pas, on a une conscience, comme toujours, de la propriété. C'est la même qui manifeste. Et la responsabilité me donne le signal d'alarme. Ah, je suis responsable de ça. Oui. Et c'est ce qu'on vous prend, on dira, mais quoi, vous n'avez rien fait, regardez, vous êtes responsable de ça.
L'autorité qui repose sur l'intérieur, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine autorité qui repose sur le conseil, sur l'engagement, sur le conseil, sur ce qui est antérieur à l'intérieur?
Je crois pas. C'est là où est la discussion. C'est là la discussion. Je ne crois pas qu'il y ait une autorité qui repose sur l'ordre de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est source du conseil. Ça, c'est sûr. C'est le conseil que l'ami me donne qui est le plus grand conseil. Parce que quand c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout qui me donne un conseil, je dis, vous ne me connaissez pas, vous savez pas la situation. L'ami, il connaît. Oui, alors il peut donner conseil. Et on dira ça spontanément. Quand quelqu'un d'autre me donne un conseil et qui n'est pas mon ami, il me dit, mais il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, donc il ne peut pas me donner conseil. Donc l'amitié fonde le conseil. Et la responsabilité du conseil. Parce que je suis responsable quand il me donne un conseil. Tous ceux qui donnent un conseil sont responsables de la décision. Qui se prendra au terme du conseil. Et un conseil qui n'est qu'un conseil ne donne que des conseils. Le conseil ne détermine pas, sauf quand on dit que le conseil a voix délibérative. Alors à ce moment-là, il détermine. Autrement, un conseil qui n'est que conseil montre les possibilités. Non. Pas d'autorité. D'autorité, oui, c'est neuf ce que vous dites, l'autorité. On ne peut pas dire qu'il y a autorité. C'est le poids du conseil. C'est parce que, au fond, on a diminué beaucoup la valeur du conseil. On croit qu'on peut donner conseil comme ça sans être engagé. Le spectateur ne donne jamais conseil. C'est celui qui est engagé qui donne un conseil. On concourt vers la même finalité. Donc on est engagé, on est responsable du conseil qu'on donne. Vous voyez ? Mais pour celui qui doit prendre l'autorité, qui doit prendre la dernière décision, c'est celui-là qui a l'autorité. Est-ce que le conseil joue une autorité sur lui ? Non, il joue le rôle d'information.
Dans la commune de travail, il y a des formes un peu collectives d'autorité.
Oui, oui. Alors, est-ce qu'on n'abuse pas un peu du mot autorité ? Et est-ce qu'on n'a pas diminué ? Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est qu'on a diminué énormément la force du conseil. Quand vous donnez un conseil, vous êtes responsable de la décision. Parce que vous avez donné ce conseil. Le conseil, c'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement le possible. Intellectuellement, vous pouvez donner votre fichier. Alors, vous donnez toutes les possibilités, c'est l'information. Le conseil est bien plus que ça. Le conseil, vous vous engagez.
Tu parles d'autorité exécutive, donc interdit, et d'autorité législative.
Oui, l'autorité législative. Mais l'autorité législative donne des lois, et pas des conseils. Le conseil n'est pas une loi. Oui. L'autorité législative, c'est de poser une loi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui donne la loi ? C'est quand même celui qui est responsable, en dernier lieu. Alors on pourra dire conseil délibératif, la majorité. La majorité décide. Alors à ce moment-là, on passe du conseil à une autorité qui est une autorité de la majorité. Quoi ? Ça peut se ça peut se concevoir, c'est pas possible. Parce qu'on a, on a compris que la majorité pouvait avoir cette autorité. Parce que, puisque dans le conseil, on est engagé. Si dans le conseil, on était que spectateur, ça ne pourrait pas se faire. Mais comme on est engagé, on participe. Oui, on participe à l'autorité. C'est ça que je voudrais dire. On participe à l'autorité. Et on n'a pas l'autorité. Sauf si on a décidé que le conseil, par voie ma majorité absolue, dit, a l'autorité. Oui, pourrais-je habiter encore les éléments. Il y a le chapitre consultatif. Hein, le chapitre consultatif et le chapitre délibératif. On distingue les deux. On dirait participation de l'autorité. J'aime mieux le mot. Pas une autorité collective. Participation de l'autorité qui, de fait, reconnaît. Il y aura toujours une loi première qui ne sera pas ça. Parce qu'au fond, vous voyez, quand je prends les constitutions, par exemple, les constitutions n'ont autorité que si elles sont acceptées d'en haut, et en définitive du Saint-Père. Même s'il ne les voit pas, mais en définitive du Saint-Père, il a mis confiance dans un conseil qui lui dit c'est bien, très bien, et c'est lui qui donne autorité. Et dans ces conseils, dans ces constitutions, on a pu dire le conseil aura voix délibérative. Conseil renvoie consultative. C'est l'autorité première qui est. Il y aura toujours un premier. Et l'autorité en définitive sera toujours personnelle. Elle n'est pas collective. Le coin rugit. Bon, alors, y a-t-il encore d'autres questions? On continue. Cette recherche.
La propriété de l'autorité, c'est de pouvoir être délégué. On peut mettre ça comme une propriété.
Parce qu'elle peut être participée. Donc elle peut être déléguée. C'est le pouvoir qui est délégué. Alors, les liens entre le pouvoir et l'autorité. Je ne dirais pas que c'est une propriété. Parce que vous voyez la propriété. C'est ce qui est toujours lié. Or, il y a des autorités qui ne peuvent pas être déléguées. Oui. Donc, ce n'est pas une propriété. Si on prend propriété au sens fort, au sens le propre de la propriété, c'est d'être quelque chose qui existe tout le temps lorsque cette réalité existe. Or, il y a des autorités qui ne sont pas déléguées. Je peux vous déléguer mon autorité dans tel domaine, mais je ne peux pas vous la déléguer dans ce domaine-là. Le Saint-Père ne peut pas déléguer son autorité au point de vue de son infaillibilité quand il s'agit du... Oui, il ne peut pas. Tandis qu'il peut déléguer son autorité pour les juridictions. Oui, mais... Vous voyez ce qui est terrible dans cette question du langage, c'est qu'on confond tout le temps autorité. Est-ce qu'on délègue un pouvoir? On dit ça. Est-ce qu'au fond, c'est pas plus juste de dire qu'on délègue une autorité? Avec tel pouvoir. Vous voyez, c'est plus juste, je crois. Parce qu'un pouvoir délégué sans autorité, ça va plus. Or, l'autorité vient après. Or, le pouvoir vient après l'autorité. Causalité finale, causalité efficiente. Ça vient après. Une causalité efficiente sans causalité finale n'est pas humaine. Donc n'est pas politique. Elle est tyrannique.
Si l'autorité est personnelle, comment elle peut être...
Ah, parce que votre rayonnement personnel, quoi. Votre rayonnement personnel. Que à votre ombre, vous permettez de que les hommes puissent avoir une personnalité plus grande. L'autorité est personnelle, mais la délégation d'autorité reste personnelle à des personnes. racine de subsidiarité n'est pas du côté du pouvoir, elle est aussi du côté de l'autorité. Si je prends les expressions dans toute leur précision, hein, je dirais que l'autorité regarde toujours la finalité. Et le pouvoir regarde l'efficacité. Pensez à l'autorité du gendarme. Là, c'est très très clair. Et vous voyez, la miséricorde se met du côté de l'autorité, pas du côté du pouvoir. C'est celui qui exerce l'autorité qui peut être miséricordieux, parce qu'il exerce l'autorité miséricordieusement. Mais je ne vais pas dire, j'exerce mon pouvoir miséricordieusement. Pas du tout. Je suspends mon pouvoir, et j'exerce mon autorité miséricordieusement. Y a-t-il d'autres questions? Alors nous continuons. Et j'essaie, hein, de comprendre que l'amour d'amitié fonde le conseil, mais pas l'autorité. L'autorité peut jaillir à l'intérieur de l'amour d'amitié. Il faut toujours respecter. C'est pour ça que le père comme père, c'est premièrement une relation d'amour, d'amitié, filiale et maternelle. Et le père comme tel n'implique pas nécessairement l'autorité. On est tellement habitués qu'on dira c'est grand-père.
Essayez de rappeler que l'autorité parents n'ont pas réagi si les enfants d'aller les voir.
Ah, je vous attendais là. Non, non, vous savez, écoutez.
Alors, le gamin, il se moque des grands-parents ouvertement, et puis les grands-parents, ils n'ont rien à dire.
Il se moque jamais des grands-parents quand les grands-parents sont des grands-parents. S'ils sont avec des grands-parents, ça prouve que les grands-parents ne les aiment pas assez. Les grands-parents sont toujours très aimés. Quand le gosse grandit, alors c'est autre chose. Vous voyez ? Alors c'est autre chose à ce moment-là. Qu'est-ce que les grands-parents devront dire ? Ils devront avertir les parents. Voilà, tout simplement. C'est pas eux à corriger en face des parents. C'est ça que j'ai dit. Corriger en face des parents. Quand les parents sont pas là et que les parents disent « Je vous confie les enfants toute la journée et n'hésitez pas à les punir quand il le faudra. » Vous voyez, les parents délèguent le pouvoir. C'est une délégation. Et les parents délèguent. Que je vous dis repose sur cette expérience constante aujourd'hui. Et c'est très difficile pour les grands-parents d'abdiquer l'autorité et l'abdication.
Par rapport au conseil dont on parlait tout à l'heure, est-ce que quand même, c'est pas en finalité celui qui prend la décision qui a quand même, j'allais dire, la responsabilité finale.
Et tiens,
le conseil qu'on lui a donné. Donc celui qui donne le conseil a une certaine part de responsabilité, mais pas.
Mais tiens, je crois que c'est ce que j'ai dit.
J'avais compris qu'il était aussi responsable.
Ah non, j'ai dit qu'il est aussi responsable, c'est pas si. Ouais. Parce qu'il participe.
Parce que comme pour l'avortement, par exemple, ceux qui participent, qui donnent des conseils, sont également en colère. La peine d'excommunication.
L'exemple est très bien choisi. Bon, alors continuons. Vous avez raison, il faut sortir tout ce que vous avez dans le cœur. Alors, à quel moment apparaît l'autorité ? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que c'est très important. Alors, je dis l'autorité, tu vois, je dis en cherchant, l'autorité apparaît dès qu'il y aura une efficacité vers laquelle on tend. Donc l'autorité implique la finalité qui ne s'explicite qu'avec l'efficacité. Je crois qu'on peut dire ça. l'autorité, il est responsable de l'ordre vers la fin qui soit parfaitement actué. Et il est responsable d'une efficacité plus parfaite. Mais c'est pas une induction, ça. C'est simplement une constatation. À quel moment l'autorité apparaît ? Oui, je trouve ça très important. Après, vous pourrez vous poser d'où ? Alors, sur quoi se fonde l'autorité ? Autre question. Sur quoi se fonde l'autorité ? Alors, je dirais, puisqu'il s'agit de l'efficacité et de la finalité, elle se fonde donc sur le point de vue naturel d'un être ordonné. De s'ordonner à la fin. Quelqu'un qui n'est pas finalisé dans l'ordre moral n'a aucune autorité au point de vue éthique. Au point de vue politique, ce sera un tout petit peu différent. Mais si je veux éduquer, voyez, si je veux éduquer quelqu'un qui n'est absolument pas finalisé, ne peut pas éduquer. Dans l'ordre moral, dans l'ordre proprement éthique. Donc, implique ce point de vue-là. Et ça, ça me semble être le fondement premier, le fondement dans le sens de la condition sine qua non. Deuxièmement, la compétence. La compétence, c'est-à-dire savoir distinguer les moyens et la fin, et savoir être suffisamment informé sur les moyens. Et vous voyez, la compétence peut très bien être partagée, justement, par le fait qu'on peut avoir un conseil pour l'information. L'information, c'est le conseil. Tandis que la finalité, c'est personnel. Ça, je ne peux pas être remplacé. Je ne peux pas dire, j'ai un conseiller merveilleux, il est lui très finalisé, moi. Ça m'est égal. Ah non. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être complété par un autre. Il y a quelque chose qui ne peut pas être complété par un autre. Toute la phase d'information, toute la phase de compétence. Oui.
Même dans la délégation, il y a quelque chose qui peut être délégué par vous.
Délégation d'autorité, on devra déléguer l'autorité à quelqu'un qui a le sens de la finalité. Et on lui dira, vous n'êtes pas très compétent dans cette histoire-là, alors prenez des gens qui sont compétents autour de vous. Et tenez compte de ça. Tandis que la finalité, ça me semble impossible. Vous voyez, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas finalisé, votre autorité sera immédiatement molle. Elle perdra son sens, sa signification profonde. Et son impérium. Je crois ça. Ce sera une information. Je vous dis ça à titre d'information. Donc, ce ne sera plus l'autorité qui se communiquera, qui applique l'impérium. Sera tout simplement une phase au conseil, une information. Je vous délègue dans l'ordre de l'information. Il n'y a pas de délégation à ce moment-là. Oui. Au sens rigoureux. Mais je crois que c'est cela qui nous permet de saisir ce moment important de l'autorité. Parce que l'autorité nous fait comprendre le point de vue de l'obéissance. L'obéissance n'existe qu'à l'intérieur d'une coopération dans laquelle l'autorité s'exerce. Et l'autorité s'exerce en vue de cette coopération plus finalisée et plus efficace. C'est le but direct de l'exercice de l'autorité. À l'intérieur. Et grâce à cette coopération, le bien commun apparaît. Et grâce à cette coopération, il peut y avoir cette solidarité qui naît à l'intérieur de cette coopération. Mais c'est pour voir tout ce qui se ramifie à ça. Supprimer l'autorité. La coopération n'a plus sa force. Et alors, par le fait même, le bien commun. Je ne fonde pas l'autorité directement sur le bien commun. Oui. Je la fonde sur ce qui est source du bien. bien commun, la coopération. Il me semble, hein, il faut y réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on parle tout le temps du bien commun, on parle tout le temps de l'autorité et on ne sait pas ce que c'est. La preuve, c'est qu'on a fait la confusion avec le pouvoir. Et donc, en face de Freud, nous sommes obligés de préciser avec beaucoup plus netteté ce qu'est l'autorité. Alors, si ceci est vrai, si ceci est vrai, ce que je crois, autrement je ne vous le dirai pas, mais si ceci est vrai, vous voyez donc que l'autorité n'est pas liée à l'amour d'amitié, n'est pas liée immédiatement, mais que l'autorité, pour s'exercer parfaitement, réclame une certaine amitié. Je crois que vous mettez toujours les deux propositions, ou les deux affirmations. L'autorité, pour s'exercer de la manière la plus efficace, réclame une certaine amitié. Et on comprend pourquoi. Qu'on soit ensemble à rechercher la même fin. Et qu'on recherche ensemble la même fin. Ça permet à l'autorité d'être beaucoup plus intelligente. Et de beaucoup mieux comprendre l'autre. Et donc, de ne pas donner des ordres à temps et à travers. Par le fait même, quand il y a un amour d'amitié dans la complémentarité, cet amour d'amitié va s'exercer. Cet amour d'amitié qui s'exerce au-delà de l'autorité va engendrer une certaine autorité dès qu'il s'agira de faire une œuvre à deux. Et on pourra se choisir mutuellement et réciproquement l'autorité dans différents domaines. Où l'autre est plus compétent. Prenez par exemple, y a-t-il autorité du père, de l'époux ou de l'épouse pour avoir le nombre d'enfants qu'on veut? Qu'on désire. Un problème constant vous pose tout le temps. Parce que le père et la mère ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Quand ils sont tout à fait d'accord, il n'y a pas de bonne question. Mais quand ils ne sont pas d'accord, est-ce qu'on doit écouter le père ou est-ce qu'on doit écouter la mère, hein? Faites la petite réflexion vous-même, je ne vous donne pas la solution maintenant. N'écoutez pas les grands-parents. À titre de conseil, en plus, qu'est-ce qui est autorité pour la procréation? C'est important. Qu'est-ce qui est autorité pour l'éducation? Quand ils sont d'accord, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Mais quand il y a une divergence entre les deux et qu'on vient vous demander conseil, demander conseil à un père de Saint-Jean. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il avait dit une grosse bêtise. Et ceci est répété à Saint-Jean Éducation. Et à la Saint-Jean Éducation de dire quand même, vous pouvez regarder ça, où il y a des retraites au GMG. C'est une question auxquelles on doit réfléchir. On ne peut pas dire n'importe quoi. Vous êtes plus intelligente que votre mari, je vous gueule dans votre idée. Mais ça fait l'unité dans le ménage. Alors posez-vous la question.
Oui. Mais c'est une question un peu annexe, mais est-ce que c'est normal pour un jeune ménage de se demander combien on veut d'enfants?
Mais successivement, papa. Quand il y en a quatre, on demande qu'il y aura un cinquième.